Il est 7h28 minutes alors que se tient cette semaine l'étude détaillée du projet de loi 43. C'est la loi qui modifie en fait qui va permettre aux infirmières praticiennes, qu'on appelle les super infirmières, à faire certains diagnostics qui jusqu'à maintenant étaient réservés aux médecins. Et entre autres choses, elles vont pouvoir faire des diagnostics en santé mentale. Mmh. Et là, ben, on commence à dire, ben, pourquoi est-ce qu'il y a juste les infirmières praticiennes qui pourraient faire ça, alors qu'on a 5000 psychologues au Québec qui sont quand même assez bien formés pour le faire. L'Ordre des psychologues dit, ben, nous autres aussi, on aimerait ça faire ça. Et ils ont l'appui du Collège des médecins, dont le président Maurice Gaudreau est avec nous. Bonjour, docteur Gaudreau.
Bonjour.
Alors, les infirmières, bien sûr, vous pensez qu'elles ont cette capacité-là de le faire, et les psychologues aussi, c'est
oui.
ça?
Oui, oh oui, les infirmières, ben, on s'est prononcé pour, là, très, très bien d'accord avec le projet de loi 43 qui donne des pouvoirs accrus aux infirmières praticiennes spécialisées, bien sûr. Et nous pensons, et tout cela, on l'a fait dans un sens d'ouverture, hein, dans un sens de collaboration optimale de la communauté médicale, du collège, à l'ouverture par rapport à travailler avec les autres professionnels de la santé. Mm-hmm. C'est ça que nous visons ensemble, plusieurs professionnels de la santé, qui, en travail, en partenariat, en collaboration, vont pouvoir améliorer les soins et l'accès aux services de santé au Québec. Et c'est dans le même ordre d'idée d'ouverture que nous proposons au gouvernement, à la ministre de la Santé, de permettre à ces professionnels, dont les psychologues, de pouvoir émettre des diagnostics de troubles mentaux.
Oui. La formation d'un psychologue, par exemple, ou d'une psychologue, par rapport en santé mentale, évidemment, là, eux se concentrent sur le psychique des gens, là. Par rapport à un médecin omnipraticien, par exemple, c'est quoi?
Dans la formation leur permet de poser des diagnostics, autant qu'un médecin de famille, exemple, ou une infirmière praticienne spécialisée, ils ne peuvent pas, par exemple, faire de prescription de médicaments ou de prescription de plans de traitement. Mm-hmm. Mais elles peuvent évaluer. On a évité le mot diagnostic depuis des années pour choisir le mot évaluation.
Ben oui, c'est ça.
Mais c'est comme la même chose.
C'est la même affaire.
Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'elles peuvent, les psychologues peuvent poser ces diagnostics-là.
Donc, un psychologue qui reçoit, puis souvent, là, c'est des heures et des heures de avec un patient, là, avec un... Je pense qu'ils appellent les patients, eux autres, là, avec un client, puis c'est comme ça.
Oui.
Là. Puis là, ils peuvent passer des heures et des heures, donc ils sont capables de comprendre ce qui se passe
absolument
dans le cerveau de la personne.
Oui, prenons par exemple les neuropsychologues. Donc, j'aime citer l'exemple d'un jeune qui a un problème potentiel ou apparent de trouble de déficit de l'attention. On parle de DDAH, là.
Ouais.
Bon, actuellement, la neuropsychologue va l'évaluer, ne pourra pas poser le diagnostic,
OK?
Mais son évaluation va permettre à un médecin, un pédiatre, exemple, de poser le diagnostic et par la suite de prescrire un médicament peut-être. Mais il y a d'autres choses qui peuvent aider ce jeune-là, OK, qui nécessitent un diagnostic. Par exemple, des recommandations à l'école, de l'utilisation, juste pour dire quelque chose, d'une tablette, là, d'un iPad. À ce moment-là, la neuropsychologue va pouvoir poser le diagnostic, OK?
Et proposer
l'utilisation d'un iPad en classe,
OK?
Et à ce moment-là, pas besoin de passer nécessairement par un médecin ou un autre professionnel.
Ouais.
Et ça permet, à mon avis, d'accélérer l'utilisation du iPad par le jeune en question et donc l'accès.
OK. Mais la limite, c'est les médicaments, évidemment, parce qu'un psychologue n'a pas nécessairement formation pharmacologique.
Non, on ne pourra pas prescrire. Ça prend un médecin, ça prend un pédiatre ou un médecin de famille ou un psychiatre, exemple, pour prescrire le médicament, si tel est besoin. Mais il y a toutes sortes d'autres outils que le jeune peut utiliser en classe qui vont lui permettre d'améliorer sa performance. Donc, de venir traiter son TDAH.
OK. Là, la proposition a été faite d'amendement par le député André Fortin, le député libéral, puis ça a été rejeté là, par Mme McCann, la ministre de la Santé. Est-ce que vous lui demandez de reconsidérer sa décision de rejeter ces amendements-là?
Oui, c'est ça que le communiqué de presse dit hier par rapport à demander au gouvernement. On souhaite que le gouvernement donne suite à notre proposition et permettre à ses professionnels de poser les diagnostics. Et tout cela, je le répète, là, c'est pour travailler de concert. L'ensemble des professionnels de la santé pour améliorer le système doivent travailler ensemble.
Oui.
Et nous pensons qu'il s'agit là d'une avenue pour améliorer l'accès.
Bon. Vous avez fait des concessions avec les pharmaciens. il y a quelques années. Là.
J'appelle pas ça des concessions, c'est de la collaboration avec des professionnels.
Oui, pour améliorer mais vous allez voir aussi. Pourquoi j'appelle ça des concessions.
Oui.
Il y a eu les pharmaciens. Là, il y a eu, bien sûr, dans ce projet de loi-là, c'est les super infirmières. Vous aimeriez que les psychologues puissent en faire davantage aussi. Comment ça se fait qu'il y a un changement de philosophie au Collège des médecins depuis quelques années? Parce que vous avez été longtemps protectionniste de la profession de médecin, puis dire non, ça c'est nous autres qui le fait, puis personne d'autre.
Ben, parce qu'on est en 2020, parce qu'on écoute la société. J'ai fait une large démarche de consultation citoyenne l'année dernière, OK, qui m'a permis de rencontrer plusieurs personnes. On a fait des sondages aussi. Au-delà de 3000 personnes ont été contactées, soit en personne, soit par sondage. Et là, on nous a dit on aimerait que le collège collabore plus avec les autres professionnels de la santé pour améliorer l'accès. Et c'est cette ouverture-là, c'est l'écoute de la société qui nous porte à changer puis à se comporter comme un autre professionnel voulant collaborer plus avec les autres ordres.
J'imagine que s'il y a davantage de diagnostics qui sont faits par les infirmières, par les psychologues, par les pharmaciens, etc., ça dégage... les médecins d'une certaine somme de travail, n'est-ce pas?
Ben, je pense que oui, évidemment. Ces professionnels-là dont on parle, les IPS ou les psychologues, à un moment donné, vont s'apercevoir ou atteindre des limites par rapport à la compétence qu'ils ont ou qu'ils ont. Et à ce moment-là, vont pouvoir consulter le médecin qui, lui, aurait été dégagé d'une certaine façon de cas plus légers pour s'occuper de cas plus complexes.
Mais là, le gouvernement vous en demande plus là aux médecins en disant il faut travailler plus parce qu'on n'a pas atteint le plafond qu'on s'était fixé ou le plancher qu'on s'était fixé. Donc, ils vous en demandent plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'en donner un petit peu plus?
Moi, je dirige un autre professionnel.
Ouais.
L'autre professionnel que je dirige, sa mission, c'est une médecine de qualité au service du public, donc pour protéger le public. Pour moi, il s'agit de toujours exercer une médecine de qualité. Donc, je n'irai pas dans le sens de demander aux médecins de travailler plus ou moins, là, mais de travailler de façon efficace, toujours avec la meilleure qualité possible.
Est-ce que la réalité a changé depuis... Il y a beaucoup plus de femmes maintenant, médecins, qu'il y en avait il y a 20 ans. Puis ça sent... Il y a beaucoup... Dans les facultés de médecine, d'ailleurs, je pense que les femmes sont majoritaires. Est-ce que ça change la réalité en termes de travail? Parce que les femmes ont des obligations que les hommes n'ont pas. Par exemple, quand une femme a un enfant, c'est elle qui le porte. Là, même si les hommes voulaient le porter, ça ne marchera pas. Là. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait davantage de femmes médecins, ça fait en sorte qu'il y a une baisse de patients qui peuvent être rencontrés parce que les femmes ont des réalités que les médecins...
Je ne pense pas. Vous parliez d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on admettait moins d'étudiants en médecine. On formait moins de médecins. On en forme beaucoup plus depuis 10 ans, notamment.
Ouais.
10, 12 ans. Il y a 20 ans, on admettait 400 étudiants dans les facultés de médecine du Québec. Maintenant, on en admet 800. Donc, ce que vous dites par rapport à... aux médecins femmes qui, à un moment donné, doivent s'absenter pour une raison de grossesse, exemple, il y a plus de médecins maintenant qui sont disponibles au travail. Donc, je ne pense pas que cela ait changé la disponibilité des médecins.
Est-ce que les jeunes ont moins tendance à travailler un grand nombre d'heures que les médecins plus âgés? Parce que c'est une tendance qui se note dans à peu près toute la société.
Toute la société, toutes les professions. La nôtre ne fait pas exception, évidemment. Donc, par rapport à cela, c'est un changement de société. C'est la société qui change et qui fait en sorte que les gens... peut-être vous dites travaillent moins que les médecins âgés. Je peux pas dire ça, là, qu'ils travaillent moins que les médecins âgés.
Ben, il y a beaucoup de médecins qui vont privilégier, par exemple, qui vont dire, ben, moi, ça me dérange pas de pas gagner 300 000. Mais par contre, je vais travailler un petit peu moins. Puis je vais avoir une meilleure qualité de vie avec ma famille, tout ça.
Ben ça, c'est le médecin, il est comme vous, il est comme toutes les autres personnes qui vivent dans notre société actuelle par rapport à cela. Et donc, des valeurs qui ont changé, des valeurs familiales.
C'est une réalité à laquelle vous êtes confronté aussi.
Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y a plus d'étudiants admis dans les facultés de médecine, plus de médecins formés qu'il y a 20 ans par année.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité des médecins? Parce que la formation des médecins au Québec, ça coûte extrêmement cher, puis ils ne payent pas plus cher que les autres. Tu étudies en géographie ou tu étudies en médecine, c'est les mêmes frais. Là.
Oui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une plus grande responsabilité de la part des médecins parce que leur formation coûte extrêmement cher à l'État? de donner davantage.
Ben, je vous parlais tout à l'heure de la consultation que j'ai eu le plaisir de mener l'année dernière. On a parlé là-dedans beaucoup avec des médecins, avec des personnes du public, de la responsabilité sociale de la communauté médicale.
Ouais.
Et quand je parlais de responsabilité sociale, c'est beaucoup par rapport à allier une éthique de responsabilité individuelle entre un médecin et son patient à une éthique de responsabilité collective entre un groupe de médecins et même plus un groupe de professionnels de la santé et une communauté de patients. Donc, je pense que là, oui, il y a de plus en plus de discussions, de réflexions et de sensibilisation à la responsabilité sociale de la communauté médicale à ce sujet.
Donc, on invite Mme McCann peut-être à écouter et à accepter les amendements qui sont proposés pour qu'on élargisse encore une fois le champ de pratique des psychologues.
Bien sûr qu'on l'invite et on lui propose, on souhaite qu'il va aller dans le sens de notre proposition.
Dr. Gaudreau, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le Dr. Maurice Gaudreau est le président du Collège des médecins du Québec.